Bienvenue dans votre numéro du mois de juin de la chronique culture du département. C'est une émission qui vous est proposée mensuellement en coproduction avec le département de l'Eure. Bonjour Florence, bonjour Marie, c'est vous bonjour, qui êtes bonjour. Au micro et à l'animation ce mois-ci.
Tout à fait.
Alors au sommaire de cette émission, nous parlerons de cœur en patrimoine.
Oui, et on reçoit l'artiste MC Agora qui a participé aux ateliers d'écriture avec les collégiens. On reviendra dessus.
Tout à fait. Et nous parlerons également des journées du patrimoine, Florence.
Oui, je sais, nous avons deux invités pour nous en parler. Donc Aurélie Robert, qui est la chef de projet Journée européenne du patrimoine, et Raphaël Jarry, qui était déjà venu dans l'émission précédente et qui est chef de projet art visuel, qui nous en parleront un petit peu plus tard des Journées européennes du patrimoine.
Très bien. Et nous irons faire également un tour du côté de Gisacum aujourd'hui.
Oui, parce qu'il se passe pas mal de choses. Alors Nathalie Gobert, qui est responsable des animations à Gisacum, viendra nous parler de tout ce qui se passe cet été.
Et puis nous ferons un petit point agenda non exhaustif en fin d'émission. Mais tout de suite, nous commençons par le saviez-vous.
Alors cet été, il y a les Jeux Olympiques qui vont se passer partout en France. Mais le saviez-vous qu'à Harcourt, il y a aussi leur programmation sur le sport d'une façon bien différente. Donc c'est l'occasion d'aller cet été faire du loto pas sportif ou d'aller à un espace détente pour voir le sport d'une autre manière.
Et j'imagine une manière non éprouvante.
Tout à fait.
Bye.
Ah, donc on vient d'écouter le morceau Grace du groupe Idols, qui est un groupe originaire de Bristol, de post-punk. Et c'est issu de l'album Tank, qui est sorti en février 2024. Et on enchaîne donc avec le Cœur en patrimoine, dont on avait déjà parlé le mois dernier avec Karine Manouvrier, qui était venue nous présenter le dispositif. Et donc on reçoit MC Agora, qui a participé au projet.
Dont on a vu également la représentation sur
YouTube.
Voilà.
Tout à fait.
Je vais y arriver,
le clip est visible en effet sur le YouTube du département.
Donc merci MC Agora de venir à la radio.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Tout début, est-ce que vous pouvez présenter votre travail
MC Agora, donc artiste, rappeur, on rigole sur le mot artiste, mais je le vis bien. Rappeur, musicien, compositeur, ingé son, boxeur, papa, beaucoup de casquettes à mon arc.
D'accord. Donc vous avez travaillé avec des collégiens dans le cadre du dispositif Cœur en patrimoine.
Tout à fait.
Comment ça s'est passé? Comment vous avez été approché par le Tangram?
Absolument. Donc j'ai été approché par le Tangram, par Christelle, que je salue, pour faire l'action du coup Cœur en patrimoine avec le collège de Beuzeville. Ce qui a duré, enfin je sais pas, le premier atelier il a dû avoir lieu en février, je crois. C'était de février à juin à peu près.
Et ça consiste en quoi, en fait, le dispositif Cœur en patrimoine?
Et du coup, on m'a proposé, du coup, de soit reprendre, soit composer un morceau. J'ai donc choisi, évidemment, la facilité et composer un morceau avec les élèves. Donc, du coup, on a fait une création originale, musique, écriture et enregistrement. Et également tournage, puisqu'il y a un clip que, du coup, vous avez déjà tous vu sur YouTube.
Sur le contact avec des élèves, des collégiens, ils ne connaissaient pas forcément votre univers, en fait, sur le premier contact. Est-ce qu'il y a cette période, au bout d'un moment, de communiquer d'un univers à l'autre, parce qu'ils ont leur univers à eux, vous avez le vôtre à vous, et comment ça a fonctionné, ça, cette espèce de « on va apprendre à se connaître avant de commencer ».
Alors pour le coup, Cœur en patrimoine, c'était on a, je sais pas si on va dire le mot, allez, budgétisé ou organisé, planifié l'action sur 6 ateliers, sachant qu'il y en avait un pour le tournage du clip, un pour l'enregistrement, donc ça me laissait 4 ateliers de composition. Du coup, justement cette partie échange, partage,
découverte,
et
ouais.
Voilà, que ça puisse faire du va-et-vient. Pour moi, c'était important. Du coup, les 2 premiers ateliers, ils ont vraiment été dédiés à ça, sur qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui me parle et comment on peut mettre quelque chose en commun, qu'est-ce qui vous inspire, voilà.
Parce que finalement, c'est l'histoire d'une rencontre, c'est l'histoire d'un feat.
C'est un featuring à 3. D'ailleurs, parce que là, on parle de moi, mais j'ai aussi invité une artiste, chanteuse, Marie May, sur cet atelier. Et du coup, c'était vraiment un featuring à 3, ce morceau.
Alors comment ça se passe justement? C'est on parle musique, on écoute des choses,
je
on
leur ai demandé,
je vais être un petit peu dans les coulisses quoi.
Je pense qu'au préalable ils avaient déjà écouté un peu ce que je faisais, donc on va dire que ma présentation avait déjà un peu été faite. Mais oui, sur les premiers ateliers, j'ai eu à cœur d'écouter ce que eux ils écoutaient en fait. Je leur ai demandé à chacun de me faire écouter un morceau qui les inspirait, et on a ensemble en fait avec les groupes que j'ai pu avoir, on avait divisé le groupe. Hein. Il y avait un groupe qui était plus axé composition, un groupe qui était plus axé écriture, même si ça a tourné. Il y a eu ce moment de donnez-moi vos influences à vous que je puisse nourrir le morceau avec. Quoi. Que l'on puisse nourrir le morceau avec.
On a été là-bas au collège de Beuzeville et on leur a demandé ce qu'ils écoutaient. Ils écoutaient du rap. Est-ce que ça vous a surpris?
Alors, on a l'habitude, le rap étant une musique aujourd'hui populaire, mais pas que. Moi, c'est ça que là-dessus que je précise, c'est que tous n'écoutaient pas que du rap. Il y en a qui me disaient vraiment, non, moi, j'écoute pas de rap, quoi. J'ai eu de la K-pop. J'ai eu du rock, j'ai eu de la folk, et j'ai eu effectivement du rap. Ça, c'est quand même assez revenu.
Et alors, quand on dit du rap, on dit des rap, en fait.
Parce que le rap, c'est effectivement plusieurs genres, plusieurs histoires, plusieurs courants. Le rap aujourd'hui, c'est un peu comme le jazz. Hein, ça veut plus dire grand chose, dans le sens où il y a tout qui existe, quoi.
Et vous avez travaillé avec une classe de quel niveau?
C'était des quatrièmes, la quatrième Volta du collège Jacques Brel de Beuzeville. Waouh, ma mémoire est incroyable.
Volta, ça veut dire quoi?
J'en ai aucune idée.
Ah non, ça fait comme ça, la classe, c'était la classe Volta.
Voilà.
Oui, le des quatrièmes C, c'est quatrième Volta.
Ouais, mais c'est plus cool qu'une lettre.
Exactement ce qu'ils m'ont dit, c'est plus cool qu'une lettre.
Bah voilà, on y est. Quand on aborde la composition, comment ça marche? Parce qu'ils ne sont pas tous musiciens, ils n'ont pas tous un parcours musical, ils n'ont pas forcément comme intervention de dire, eh ben là, si on passait en mineur, et là, on fait un pont ici, enfin bref, tous ces termes techniques de la composition, comment on amène finalement des novices à composer?
Alors, bonne question. Eh bien, la composition, parce qu'on a fait quand même, pour le dire, un morceau rap, pour le coup, à connotation rap. La composition de morceaux rap, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus érudit, dans le sens où on n'a pas besoin de respecter forcément les structures d'une sonate pour quatuor à cordes écrite dans le style de Mozart à l'époque. Non. Donc, ça reste un style qui est quand même assez ouvert, assez accessible. Et donc, sans être un virtuose qui a fait 15 ans de conservatoire, je pense qu'on est tout à fait en mesure d'avoir des idées musicales, et ça a été leur cas. En fait, on était dans la classe musique, donc il y avait des instruments à disposition. Je leur ai fait jouer des congas, je leur ai fait toucher, j'ai ramené des claviers MIDI, donc c'est eux qui ont joué des accords de recherche sans savoir et sans être pianiste, et je suis reparti de ce que eux ils avaient fait ensuite pour effectivement arranger, embellir, etc. Mais ça vient d'eux.
Et est-ce que la professeure de musique a participé à l'élaboration du morceau?
Eh bien, je dirais que oui et non, dans le sens où oui, elle était présente. Mais non, c'est un featuring avec les élèves et non la professeure.
D'accord.
Alors nous sommes partis au collège de Buzzville pour avoir un peu les impressions des élèves après l'enregistrement sonore et après le clip. Donc voilà, maintenant c'est l'enregistrement qui va passer.
Je suis Vanessa Nallet et je suis professeure d'éducation musicale au collège Jacques Brel. C'est le département qui a proposé ce dispositif, donc Cœur en patrimoine. On n'a pas hésité très longtemps, et ni pour le projet ni pour la classe d'ailleurs.
C'est MC Agora et Marie-Maëlle qui ont écrit les paroles.
On a tous fait un atelier où on écrivait un refrain. Il y a eu les parties des refrains de plusieurs groupes qui ont été intégrés dans un seul. Et du coup, bah, en fait, on l'a écrit, mais il n'y a pas beaucoup de choses qu'on a écrites qui a été retenues.
Bah, moi, je voulais dire que c'est normal que ça ait pris un petit peu de temps, parce que le refrain a un rythme un petit peu particulier. Du coup, il a fallu du temps pour qu'on arrive à trouver exactement le bon rythme. Il y avait des choses avec des syllabes. On essayait de faire correspondre les mots avec les syllabes. Parfois, il y avait un petit peu trop de syllabes, donc il fallait changer le rythme du refrain.
Il y a eu 6 ateliers, je crois bien, dans mes souvenirs, où voilà, il y a eu le travail. Nous, on a repris aussi le refrain en classe, on a retravaillé. Et puis, il y a eu l'enregistrement après au cube. Oui, bah, on voit déjà nos élèves différemment, donc c'est toujours une bonne chose. Après, je sais que, bon, on en a énormément discuté de ce projet. Et bon, ils ont été extrêmement ravis du clip, en attendant. Enfin, voilà, parce qu'ils ont pu participer justement à la création aussi d'images en fait, hein. Certains avaient les lumières, d'autres avaient une partie de la caméra, donc ouais, ça leur a beaucoup plu cette partie là le partie vidéo, oui, énormément. Moi je trouve les images absolument extraordinaires, quoi. Alors c'est un lieu, la cidrerie, il faut vraiment y aller. La salle est sublime, mais le lieu raconte des choses, donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir fait ce clip dans ce lieu là ouais. Oui, moi je serais vraiment partante pour refaire un autre projet comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant de croiser les arts, en fait, hein, sur la musique, sur les lieux patrimoniaux de la Normandie, mais voilà, je pense que ça se fait aussi peut-être dans d'autres départements, mais on a vraiment des lieux culturels intéressants. En plus, c'est un lieu qui a été transformé, puisque c'est quand même une ancienne usine. Donc, en plus, on est sur le patrimoine industriel, donc c'est vraiment intéressant à faire, et oui, je le referai volontiers. Ouais.
C'était le témoignage des professeurs et des élèves. D'ailleurs, dans une des interventions, il y a toute cette frustration justement qu'on entendait un petit peu sur un élève qui dit « on a dit plein de trucs et j'ai pas retrouvé moi mes mots ».
Et oui, ça c'est ce que, comment dire, quand on co-compose, eh bien il faut faire ce qu'on appelle des compromis avec les différents intervenants. Donc là, on avait, je sais plus combien il y avait d'élèves au total, mais une trentaine, peut-être un peu moins, 25-30.
Une classe, quoi.
Une classe, donc on va dire une trentaine en tout avec nous aussi. Donc il y a 30 cerveaux à mettre d'accord sur un refrain. Un refrain, ça comprend, allez, une dizaine de mots. Voilà, il fallait faire des compromis.
Ce qui n'est pas évident. Hein.
Ce qui n'est pas évident, absolument.
Et d'ailleurs, par rapport à une des élèves qui parlait du rythme du rap, comment vous avez travaillé avec votre rythme?
Et oui, d'autant plus qu'en plus, moi, je suis un rappeur qui a décidé de rapper en anglais. Du coup, je rajoute une difficulté supplémentaire. Donc déjà, le rap, ça, cette notion de rythme qui est quand même importante pour le genre, et du coup, de flow et de placement du mot dans le tempo, quoi. Et du coup, faut le faire aussi en anglais, donc qui n'est pas la langue natale de nos chers élèves. Et on a du coup travaillé ensemble pour faire en sorte que ça marche. Et ça a pris un peu de temps, mais c'est bien normal.
Le tournage s'est fait à la Cidrerie. Est-ce que vous connaissiez la Cidrerie avant d'y aller?
Absolument pas. J'ai découvert le lieu sur place en arrivant pour le tournage du clip, que j'ai trouvé surprenamment plus beau que ce qu'on m'avait dit que je pensais que ce serait. Cette phrase est très très bien sortie.
Du coup, vous aimeriez vous produire là-bas?
Avec plaisir, avec grand plaisir, tout à fait.
Comment s'est passé le tournage avec les élèves?
Eh bien, on est arrivé assez tôt, parce que Beuzeville-d'Evreux, c'est une petite trotte. Du coup, je sais pas, il y a une heure et quart de route, quoi. On a dû arriver pour 9h, peut-être un peu plus tôt, même 8h30, je sais plus, bref. J'ai ce souvenir-là qui me revient, en tout cas, de m'être levé tôt. Et ensuite, on a pris la journée, donc je sais pas, de 9h à 17h, à tourner les différents plans qu'on avait au préalable imaginés. On savait qu'on voulait on avait fait ce qu'on appelle un scénario. Du coup, en imaginant que sur le premier couplet, ce serait des moments un peu plus lents, contemplatifs, etc., pour que le deuxième couplet, où c'est un peu plus rap, ce soit un peu plus dynamique, et puisse y avoir de la nuance, etc., des plans collégiales, des plans solo. Et du coup, on a pris la journée pour réaliser tous ces plans. Mais dès notre arrivée, dès les premières images qu'on pouvait voir sur la caméra, on savait que le clip rendrait bien.
Qui est-ce qui a fait la réalisation du clip?
Pardon, excuse-moi. Marie. Oui.
Non, je voulais savoir qui avait réalisé le clip.
Eh bien, c'est l'ami Yvan Cahagne qui était à la réalisation du clip, qui a déjà fait des images pour moi, d'ailleurs, sur d'autres projets, qui bosse très bien, qui a été très efficace. Voilà. Il y a du drone, de la 360, des plans serrés, des plans larges, c'est beau. And I'ma wait, hold up. They don't want me to go up. I wish my own luck, then I'm waiting for we to show up. Oh fuck, I've got news that will make you humdrum. I'm the best at what I do, but it's 24, so what? I was long gone in a bad dream, never woke up. Tendency to kill my enemies with a throat cut. Bars, I got plenty, fat like Homer's belly. Head in the clouds, feet on the ground, out of the ordinary. Shit, you know I'm unsteady. 5 stars on my ass, they're bringing the military. Feels like I'm living a movie, overthinking. No clue what you gonna do. I feel that's none of your business. We don't need your POV. Too many rats in the industry. Cats coming to the rescue with lyrical weaponry and jujitsu. Nigga didn't think it through. They said they're dope, but they're writing their own review. I said they're jokes. Hard times finding something new. Don't know why this world feels so blue. I'm done losing my mind over you. Feeling back from the dead now. Believe me, I'm beyond dead now. You can't stop me, I'm bringing hell if you try me.
Voilà, c'était un petit extrait justement du rendu finalement, parce qu'on en parle durant cette émission, mais il était important aussi qu'on écoute un extrait. Florence.
Oui, je voulais savoir si c'était la première expérience avec des élèves et si vous auriez envie de recommencer, si c'était le cas.
Yes, eh bien non, j'ai déjà fait des actions culturelles au préalable, plutôt d'ailleurs d'écriture en général. C'est là-dessus que moi je me positionne, écriture de texte ou alors beatmaking. Mais c'est la première fois qu'on fait un rendu aussi abouti, où là il y a vraiment jusqu'au tournage du clip, etc. On a quand même jusqu'au studio. Il y a vraiment toute l'expérience complète pour les élèves, et je trouve ça assez chouette.
Il y a une aisance, on le voit dans le clip, parce que pendant qu'on écoutait en plateau, là, moi j'avais le clip sous les yeux, on voit à l'image une aisance des élèves, j'imagine qui est pas naturelle dès le démarrage, en fait, quand on travaille le chant, quand on travaille la chorégraphie, l'image, quand on travaille tout ça, finalement, quand on est en quatrième, c'est peut-être pas le moment de sa vie où on est le plus à l'aise avec l'image qu'on renvoie, et là, il émane quand même une aisance... Assez fluide.
Eh ben, c'est très appréciable que tu le notes, puisque ça n'a pas été évident au début de la journée, effectivement, qu'ils se rendent dans cette aisance. Je pense que... je ne suis plus en quatrième. Mais j'imagine que au tout début, devant tous les camarades, etc., on a une sorte de gêne qui... À quoi ça va ressembler, cette histoire? Je vais apparaître dans un clip, etc. Et c'est au fur et à mesure de la journée avançant qu'on sentait la confiance aussi qu'il pouvait placer en nous et en ce que ça allait donner, qui a fait que ça s'est un peu...
Parce que cette aisance, je l'ai pas plus aujourd'hui. Hein. Si vous nous faites intervenir là avec Marie et Florence dans votre clip, c'est pas dit qu'on ait cette aisance hein, dès le début non plus, hein, parce qu'on parle des jeunes en quatrième, mais je suis pas sûr qu'on soit beaucoup mieux, hein, même si on est adulte.
Je pense que ce qui est fort, c'est que vraiment à la fin d'une journée comme ça et d'un atelier comme ça, tu gagnes forcément en confiance sur ce que tu es capable de faire. Et ça, je trouve ça super important. C'est assez inégal d'ailleurs d'un élève à l'autre. Il y a des élèves qui sont beaucoup plus à l'aise, plus vite que d'autres. Mais je pense que l'ensemble gagne en aisance à la fin.
On l'entend bien dans la voix et on le voit bien à l'image.
D'ailleurs, quand on est allé au collège de là-bas, il y a eu une cohésion de groupe. Enfin, vraiment, ce projet a permis à la classe de créer une cohésion et... Vraiment, on sent que tous s'entendent très bien.
Ouais, ça c'est. De base, il y avait quand même une sorte de bienveillance sur cette classe-là en particulier. Ils avaient fait une bonne sélection, la quatrième Volta. Était de base bien soudés.
Du coup, je voulais savoir si vous aviez des projets personnels qui vont arriver incessamment sous peu ou d'autres ateliers d'écriture.
Eh bien oui, alors atelier d'écriture, je crois qu'il y en a un qui va se faire à courant 2024-25 avec le silo à Vernay-sur-Avre, si je vends pas la mèche trop tôt, je suis pas sûr que ce soit encore fait ça. Mais bref, on est toujours ouvert.
Ils n'ont plus le choix, voilà. Ils n'ont plus le choix, ça a été annoncé.
Je suis toujours ouvert à de l'action culturelle, je trouve que c'est des moments qui nourrissent aussi art, mon processus créatif, bla bla bla.
Non mais aussi le projet personnel aussi MC Agora.
Et bien sûr le projet personnel MC Agora qui suit tout à fait son cours. J'ai 6 titres tout neuf, tout chaud, tout prêt à sortir à la. Je pense entre l'automne et l'hiver. Je n'ai pas encore déterminé une date, mais.
Eh bien, vous n'oublierez pas de le distribuer jusqu'à ici, bien entendu. MC Agora.
On en est très fiers d'ailleurs. J'en suis très fier.
Eh bien, nous repartons en musique. Merci beaucoup, MC Agora, d'avoir échangé avec nous, nous avoir parlé de ce projet Cœur en patrimoine. On rappelle aux auditeurs qui peuvent s'empresser de se ruer sur notamment Facebook, sur Heure en Normandie. C'est la chaîne Heure en Normandie où ils peuvent retrouver le morceau en intégralité. On invite vraiment et à écouter le morceau et à voir ces jeunes et à découvrir cette cidrerie sur YouTube notamment. Vous pouvez le retrouver. Facile à trouver, Cœur en patrimoine 2024, MC Agora et Marie-May à la cidrerie de Beuzeville avec la classe Volta, quatrième yes. Volta. Non, c'est pas ça.
Si, c'est ça. Je voulais juste rajouter que bientôt il y aura le making of qui sera aussi visible sur les réseaux sociaux.
Ah ouais, donc restons bien à l'affût de tout ce qui va s'y passer. Nous repartons en musique et nous revenons juste après.
Alors, vous aurez reconnu quelques airs de Vivaldi. En effet, le morceau s'appelle Vivaldi. C'est un morceau de Tilassine. Vous l'aurez compris, c'est quelqu'un qui reprend de la musique classique avec un peu d'électro. Voilà, et c'est son album Tilassine and 74 Musicians. Voilà.
Alors, nous retrouvons donc Aurélie Roper, le chef de projet Journée européenne du patrimoine au département, et Raphaël Jarry, qui est son binôme, en tant que chef de projet art visuel. Donc,
bienvenue.
Bonjour,
merci.
Donc, je voulais savoir ce que fait le département pour les Journées européennes du patrimoine cette année.
Oui, alors le département de l'Eure s'est intégré à l'événement depuis maintenant 6 ans. Donc nous allons fêter notre 6e anniversaire cette année. Et donc, en fait, dans l'idée,
vous allez investir.
Dans l'idée du département, je vais y arriver. Je suis navrée, hein, c'est une première pour moi. Donc,
C'est pareil pour nous,
pareil pour tout le monde.
Oui, donc dans l'idée du projet, le département invite des artistes d'art contemporain à composer une œuvre dite in situ, donc vraiment une création pour le site patrimonial. Et c'est une manière de le valoriser autrement, enfin par le regard d'un artiste.
Donc c'est l'occasion aussi pour nous de nous réapproprier le patrimoine finalement qu'on connaît pas forcément, même s'il est sur notre territoire.
Tout à fait.
C'est aussi, ça. Des fois, c'est aussi simple que ça sur nos visites. C'est à 3 pas de chez nous. On l'a pas forcément visité, on l'a pas forcément vu. Et puis, ces journées du patrimoine sont l'occasion de les mettre en lumière, peut-être différemment aussi.
C'est ça, tout à fait. Une découverte et redécouverte du patrimoine de proximité, on va dire. Donc, oui, on est en plein.
Et les artistes, c'est plutôt pas mal pour nous le mettre en lumière.
C'est ça, tout à fait. Donc, c'est des artistes en plus d'envergure nationale, internationale, voire même locale. Cette année, on a intégré aussi des artistes locaux. Voilà ce que je peux en dire. Donc, je peux annoncer la programmation.
Oui, je vais vous poser la question. Combien d'artistes cette année? Combien de lieux? Et puis, sur quel secteur ça se situe? Si c'est dans tout le département ou si vous avez...
C'est même dans toute l'Europe.
Oui, mais les nôtres.
Alors, oui,
le département.
On a le droit d'aller visiter les autres
aussi.
Bien sûr.
Alors, cette année, contrairement aux autres éditions, on a choisi de resserrer un peu le territoire, parce qu'on connaît quand même notre département qui est très étendu. Et là, on a voulu vraiment créer un vrai parcours artistique de proximité, encore une fois. Donc, on a choisi l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Donc c'est vraiment la ville de Bernay et les alentours. Donc nous avons la ville de Broglie et Ménil-en-Ouche. Donc pour être plus précis sur le programme, au niveau de la ville de Bernay, on va investir l'hôpital de Bernay, l'abbatiale Notre-Dame et le conservatoire de musique. Et nous descendrons ensuite à Broglie au Moulin de Près et enfin à Ménil-en-Ouche au château du Blanc-Buisson.
Ça, ce sont des lieux, alors pour le coup, pour m'être promené dans tous ces coins-là, c'est des lieux que je ne connais pas, par exemple. C'est vraiment, à l'année, on peut les voir aussi, ces monuments.
Ouais, oui,
à l'année aussi, on peut les voir.
Tout à fait, on peut les voir à l'année. L'hôpital est toujours en activité aujourd'hui.
Oui, mais en hôpital.
Oui, en hôpital, tout à fait.
C'est pas en visite, quoi.
Non, c'est sûr, mais il faut voir le bâtiment. Il est vraiment très historique, très ancien.
Mais c'est vrai que du coup, il va y avoir une ouverture spécifique pendant le week-end avec des visites guidées, des médiateurs qui vont vous présenter les lieux. À l'hôpital, c'est le cas.
Ouais,
c'est
ça.
C'est pas toute l'année qu'il y a des visites. Au conservatoire aussi, le conservatoire de musique qui est en fait un ancien abattoir de Bernay, donc qui a une histoire assez chargée, particulière, une très belle rénovation. Là aussi, il va y avoir une ouverture. L'architecte qui a fait la rénovation qui va pouvoir en parler. Donc oui, il y a un côté un peu exceptionnel à découvrir ces lieux-là, ce week-end-là, et en plus avec des œuvres monumentales de la programmation artistique.
Oui, tout à fait. Donc au niveau des artistes, on a choisi des artistes du mouvement des arts urbains, le street art. Donc nous avons 5 artistes. Je vous donne les noms. L'artiste Madame, le duo Monkey Bird, l'artiste graffeur Astro, le duo également Eva Zessir et l'artiste Ardif.
Ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'art très contemporain, le street art, en fait, sur le patrimoine.
C'est
finalement,
ça.
C'est mettre en parallèle cette histoire passée et finalement notre moment contemporain que nous vivons, quoi.
C'est ça.
C'est tout l'intérêt aussi des journées du patrimoine. C'est pas un truc poussiéreux, quoi, la journée
Exactement,
du patrimoine.
Bah là,
c'est un truc vivant.
Oui, tout à fait. On le révèle.
Du coup, c'est du street art sur du patrimoine ancien. Comment ça se passe pour la technique, sur les murs, tout ça?
Alors,
comment ils vont faire?
Parce que sur certains, ils sont aussi classés, hein, monuments historiques. On ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Donc là, on a trouvé une société, les Ateliers du Graphe, qui ont breveté un support universel qui s'appelle le plastigraphe. Et en fait, c'est un support qui permet de... c'est une matière en tout cas qui se colle sur le mur, qui est recyclable et qui permet de peindre, graffer, coller, on fait ce qu'on veut avec. Et c'est éphémère, on peut le retirer quand on le souhaite.
Et ça n'abîme pas
le mur d'origine.
Et du coup, entre Bernay et la fin, c'est Brionne, c'est ça ?
Ménil-en-Ouche,
il y a combien de kilomètres ?
Il y a peut-être une vingtaine.
La colle. Ça c'est pas sympa. Hein. La question de Florence n'est clairement pas sympa. Hein.
Après, il faut dire qu'on est dedans parce qu'effectivement, donc le parcours part de Bernay et après on descend toute la vallée de la Charentonne, qui est une vallée classée vraiment magnifique jusqu'à Broglie et jusqu'à Ménil-en-Ouche. Et en fait, on est dedans parce qu'il y a un parcours vélo. Donc en fait, on les a les kilomètres.
C'est ça. Je voulais faire le parcours à vélo et c'est pour ça que je voulais savoir si je pourrais tenir l'aller et le retour. Voilà.
Alors,
ma question.
Très franchement, en voiture, on est peut-être à 20-21 km, voilà, en voiture. Après, par la voie verte, la voie verte fait 13 km.
De Bernay à
Broglie. Donc on peut très largement le faire en une journée et découvrir tous les sites.
Et alors les œuvres qui seront exposées, est-ce qu'elles sont éphémères? Est-ce qu'elles seront exposées juste cette journée-là, enfin ce week-end-là, ou est-ce qu'elles vont perdurer dans le temps?
Alors là, l'idée, effectivement, sur les années précédentes, on restait vraiment sur un projet éphémère hein, qui durait seulement le week-end des Journées européennes du patrimoine. Donc c'était très frustrant de devoir enlever les œuvres dès le lundi. Donc là, le choix s'est porté de laisser vivre les œuvres plus longtemps. Et donc, vous pourrez les découvrir jusqu'à début novembre. Et ce que j'ai oublié de rajouter également dans la programmation, c'est que là, on a parlé des œuvres in situ. Mais ce qui se rajoute également cette année, c'est une exposition. Donc toujours pareil hein, sur la thématique des arts urbains. Et on a la chance et le plaisir d'accueillir en tant que commissaire d'exposition Nicolas Lojour-Lasserre, qui est un grand spécialiste de l'art urbain et qui a une collection d'œuvres d'art urbain à lui et qui nous prête gracieusement et elles seront exposées dans l'abbatiale Notre-Dame de Bernay.
Et en artiste, dans cette exposition, vous allez pouvoir retrouver une œuvre de Banksy, Obé, Jeff Aerosol, Mystique. Donc vraiment, ça retrace toute l'histoire, les 40 dernières années de l'histoire du street art depuis son émergence dans les rues de Paris dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est à la fois quelque chose de très historique et de très contemporain. Puis c'est vraiment le lien parce que c'est les artistes qui créent dans des ateliers, mais qui créent aussi à la base en extérieur sur les murs. Et c'est vraiment ce lien entre le travail de d'atelier et le travail sur les murs dans la rue.
Ces journées européennes du patrimoine vont se dérouler au mois de septembre. On est déjà dans la préparation là, on est déjà dans des visites, des possibilités où tout est déjà bouclé.
Ah oui, on y est encore, encore et encore.
Il y a encore des trucs qu'on vient dénicher. Enfin, c'est une partie de votre boulot, hein, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Vous êtes encore en train de dénicher des petites choses encore.
Oui, en effet, sur la programmation même en tant que telle, les supports de communication, les artistes également, parce qu'on est en lien aussi avec eux. Leur idée, leur inspiration, leur création, ça évolue sans cesse. Donc, effectivement, on est toujours en contact. Et c'est un projet, oui, qui débute même, on va dire, un an à l'avance.
Vous êtes déjà sur la prochaine, quoi.
Voilà.
C'est ça.
En réel, oui.
Du coup, ils vont s'installer quand, les artistes? Et est-ce qu'ils seront présents pendant le week-end des Journées européennes?
Oui, alors effectivement, donc les phases de création, hein, comme on peut les appeler, donc elles sont changeantes hein, pour certains, mais les premiers débutent fin août, et ensuite début septembre, pour que l'œuvre soit vraiment finie, le vendredi, veille du week-end des Journées européennes du patrimoine. Et effectivement, ils seront là également pendant le week-end, pour pouvoir échanger avec le public, présenter leurs œuvres, parler de leur démarche artistique...
Et ils vont rencontrer des collégiens le vendredi, juste avant l'inauguration de l'exposition. Du coup, il y a 5 artistes cette année, en tout cas 5 fresques. Et du coup, il y aura 5 classes de collégiens du territoire de l'Interco-Bernétaire de Normandie qui vont rencontrer les artistes, découvrir leur process de travail, leurs œuvres. Donc ça va être très intéressant aussi. Dans le cadre du dispositif « Lever les yeux ».
Oui. Dispositif national, effectivement, et qui permet de faire découvrir, en tout cas, aux scolaires, un site patrimonial, voilà, avant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Et on en profite pour nous, notre programmation, en tout cas, de rencontrer aussi nos artistes.
Et alors, en termes de visibilité pour les territoires, qu'est-ce que vous avez comme retombée? J'imagine que les villes qui accueillent ces œuvres sont plutôt contentes des retombées que ça a.
Effectivement, parce qu'il y a quand même une forte visibilité, une grande communication sur tout le département et les sites accueillants sont ravis, souvent parce que l'œuvre dialogue vraiment avec leur site patrimonial, donc il y a une vraie fierté. Et en plus, ça leur permet aussi des fois de redécouvrir le site autrement et d'imaginer pour la suite, dans leur programmation culturelle ou autre, d'autres choses. Donc c'est vraiment c'est bénéfique en tout cas pour les sites.
L'année dernière, donc ça s'était passé sur Verneuil-sur-Avre, Louviers et Gaillon, si je ne me trompe pas.
Château-Gaillard.
Oui. Est-ce que après il y a eu des gens qui sont venus pendant que l'installation était un petit peu là, ou enfin il y a eu des retours sur ce qui a été fait l'année dernière ou pas?
Bah, aux Andelys, à Château-Gaillard, oui, parce qu'il a l'œuvre de. Il y avait une artiste qui s'appelait Laura Ellen Bacon, qui d'ailleurs, depuis son passage dans les Journées européennes du patrimoine, là, est partie aux États-Unis pour travailler. Enfin voilà, il y a aussi des artistes, enfin, je tiens à le préciser, qui, notamment aussi Sébastien Préchou, qui a été l'artiste phare d'une des années des Journées européennes du patrimoine il y a 2 ans. Pareil, aujourd'hui, il explose sur les réseaux. Dans le milieu de l'art, on voit qu'il a pris encore en prestige, je ne sais pas si on peut dire ça pour les arts urbains, mais pour l'art en général. Mais effectivement, à Château-Gaillard, il y a eu beaucoup, beaucoup de retours très positifs de l'œuvre de Laura Ellen Bacon. Après, c'est une zone qui est aussi très touristique, mais il y a aussi des retours très interrogateurs et curieux de la part des personnes qui sont plus au niveau, quand c'est en cœur de village, où il n'y a pas forcément de touristes qui viennent, là, les gens sont aussi très curieux, posent beaucoup de questions. Ils aiment beaucoup rencontrer l'artiste. Ça, c'est important. Au moment où ils montent l'œuvre, où ils la créent, c'est vrai qu'il y a une envie de rencontrer l'artiste in situ.
Et puis découvrir le patrimoine, c'est découvrir l'histoire aussi, c'est savoir un petit peu ce qui se passait juste à côté de chez nous, ce qui se passait alors en fonction des périodes et en fonction des lieux, mais c'est s'enrichir aussi de l'histoire de notre territoire.
Tout à fait.
Et ça, c'est tout l'intérêt.
Exactement, et c'est ce qu'on souhaite donner justement à ce week-end, de pouvoir allier les deux, la partie artistique et la partie visite historique. Donc on aura effectivement des visites guidées et historiques sur les sites qui accueillent cette année.
Mmh. On réserve son week-end du samedi dimanche 21-22 septembre 2024.
Exactement.
Nous en reparlerons sur notre antenne, mais j'imagine qu'on peut retrouver toutes ces infos sur le site du département.
Oui, tout à fait. Tout est inscrit.
C'est facile à trouver. Voilà, Journée européenne du patrimoine sur le département de l'Eure. Et on retrouve toute la programmation.
Merci.
Merci beaucoup. C'est vous qui faites la conclusion avec le merci. Hein. Merci beaucoup en tout cas de vous être prêté au jeu du micro, qui n'est pas forcément évident.
Je confirme. Exercice.
Mais oui, c'est un bel exercice.
Il faut de l'entraînement quand même.
Et puis super, vous êtes entraîné pour revenir au mois de septembre alors. Comme ça, on aura les dernières petites informations disponibles. On s'écoute un morceau de musique et puis on le désannonce à la sortie, non? Ou tu voulais préciser quelque chose? Florence.
C'est bon pour moi.
Eh bien, on écoute le dernier morceau de musique de cette programmation, juste avant de retrouver Nathalie Gobert et Gisa Koum. I have my sentence now, at last I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin. Like he held her, and I won't forget.
Et donc, on vient d'écouter Nothing Matters, qui est un morceau issu de l'album Prélude to Ecstasy, un album de The Last Dinner Party, qui est donc c'est le premier album de cinq londoniennes. Voilà. Elles ont choisi le nom de leur groupe en hommage au poète Oscar Wilde et en particulier. Et l'album est sorti en 2021.
Donc maintenant, c'est Nathalie Gobert qui est avec nous, qui est responsable des animations à Gisacum et qui va nous parler de tout ce qui se passe cet été à Gisacum.
Bonjour.
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 Donc, vous avez une programmation très riche. En général, vous faites plein de choses pour les enfants et puis pour les grands aussi. Alors, quelle est la thématique de cette année, de cet été ?
Il y a une thématique un peu phare qui est celle de notre exposition temporaire, qui vient d'être inaugurée il y a quelques 15 jours tout juste. Athlète d'Olympie et d'aujourd'hui, portrait photographique. On profite de l'année des JO pour faire vraiment un gros focus sur l'héritage antique des Jeux Olympiques, au cœur même de la palestre des thermes gallo-romains. Donc, avec cette exposition de photographie qui fait le lien entre les sports d'hier et les sports d'aujourd'hui. Ça va être en fil rouge une occasion d'animer ce lieu, le cœur des thermes, la palestre, en plein été. C'est vraiment l'occasion de visites commentées, d'ateliers sportifs pour toute la famille. Mais c'est qu'un thème de tous ces rendez-vous.
La palestre, c'est l'espace central à Gisacum, parce que vous dites ça comme si nous savions tous ce qu'est la palestre, mais en fait, rappelons Gisacum qui était un lieu religieux à l'époque gallo-romaine, et au milieu de cet espace, il y a ce que vous appelez la palestre, en fait, c'était aussi dédié au sport. Si je dis pas de bêtises.
Exactement.
Alors, on revient peut-être justement comment était utilisée cette palestre et puis plus largement Gisacum. Peut-être des gens n'ont pas toute cette histoire.
Allez, c'est reparti. Gisacum, effectivement, c'est une ville sanctuaire gallo-romaine au vieil Évreux, à quelques kilomètres d'Évreux, avec au centre un temple en cours de fouille. Là, bientôt, la fouille va reprendre sur le grand temple, donc un lieu où l'archéologie continue et progresse tous les ans. Et un des deux monuments principaux, il y a le temple, mais il y a les thermes gallo-romains. Donc ça, c'est le monument que les gens peuvent découvrir tout l'été d'ailleurs, hein, en visite libre, se promener dans les thermes et dans le jardin archéologique. Et la palestre, ça n'est qu'un endroit, un morceau, mais important. C'est le lieu d'entraînement des sportifs qui faisaient du sport juste avant de se laver dans les bains juste à côté. Donc les bains, on peut en voir les vestiges et une restitution dans la mise en valeur des thermes.
Est-ce qu'il y avait un rapport à cette époque-là entre l'activité du corps, les thermes et l'activité religieuse? Ou est-ce un hasard que ces trois lieux se retrouvent sur le même lieu?
Alors, ce qui est très lié, c'est les thermes et le bain, le soin du corps, mais le bain comme purification avant les fêtes religieuses. Donc ça, effectivement, il y a un lien dans la façon de visiter ces lieux. Quand on vient à Gisacum pour une fête religieuse, on passe dans les thermes pour se purifier, pour se laver. Et en fait, comme un esprit saint dans un corps saint, ça c'est une expression romaine, il y a effectivement cette idée que l'activité physique doit précéder le bain et la détente. Donc effectivement, on fait du sport, on se lave, on se purifie, et ensuite on peut participer tous ensemble à des cérémonies, des fêtes religieuses, des banquets et des spectacles.
À l'image des journées du patrimoine, d'ailleurs, qui sont déroulées certaines fois sur le site de Gisacum. Hein. On se rappelle, nous, la radio, y avoir été au moins deux ou trois années à cette occasion-là. À l'image de ce que nous évoquions juste avant avec les journées du patrimoine ancrées dans le contemporain, Gisacum aussi est ancré dans la vie contemporaine des Hébroïciens, et notamment, on va y venir sur les animations, mais à travers tout un tas d'événements tout au long de la l'année. En fait, c'est ancré dans notre monde contemporain, Gizakoum.
Tout à fait. Gizakoum, c'est le nom d'une ville gallo-romaine, mais c'est un lieu de vie aujourd'hui avec son centre d'interprétation, son musée. C'est un lieu où on accueille des milliers de scolaires hein, tout au long de l'année pour leur faire découvrir l'archéologie.
Les trois quarts des enfants du coin ont été au bout d'un moment...
Au moins une fois.
Au moins une fois, deux, Gizakoum, ouais, c'est ça.
Effectivement. Donc oui, c'est un lieu... aujourd'hui, où on vit, c'est un lieu de nature, c'est un lieu à préserver pour son patrimoine, mais aussi pour sa vie actuelle.
D'ailleurs, vous continuez encore les fouilles. Il me semble que cet été, ça va reprendre pour le puits. C'est bien
exactement,
ça.
Exactement, c'est un.
Des... C'est un puits sans fond là.
C'est presque ça. Mais alors bon, bah, cette année, je reviens à chaque fois pour en parler. Donc les collègues espèrent arriver au fond du puits.
Et ça fait plusieurs années que vous nous le dites.
On est d'accord. Mais il y a eu plusieurs puits aussi. Hein. Donc, c'est pour ça, c'est le troisième. Effectivement, un puits qui, en fait, a été comblé avec d'énormes blocs architecturaux provenant du grand sanctuaire, des blocs où tous les ans, la surprise, ça va être quel est le type de décor qui apparaît. Donc ça nous révèle des morceaux du puzzle du grand temple. Le temple faisait 27 mètres de haut, il en reste aujourd'hui 4 ou 5 mètres d'élévation, et certains morceaux des élévations sont dans ce puits. Donc effectivement, on espère arriver au fond du puits et finalement réussir à reconstituer tout le monument grâce à tous ces petits morceaux.
Et je voulais savoir, du coup, pour revenir à l'exposition de photographies, c'est des photographies de qui enfin de...
Bien sûr, important. Ce sont des photographies qu'on a confiées à Frédéric Grimaud, qui a capté... on a 12 photographies, chacune reliée deux par deux, en fait, un sport antique. Les sportifs de l'Antiquité sont incarnés par les athlètes d'ACTA, qui est la compagnie de reconstitution qu'on invite régulièrement à Gizakoum pour faire revivre le lieu. Et face à ces athlètes grecs, on a la direction des sports du département de l'Eure a sélectionné des jeunes Eurois très prometteurs hein, qui sont soutenus par le département, des athlètes de haut niveau qui viennent en fait illustrer le même sport mais à 2000 ans d'intervalle pour qu'on puisse comparer si les gestes ont évolué ou justement voilà, quelles sont les différences, quelles sont les permanences et qu'on interroge justement ce lien passé-présent.
Alors justement, est-ce qu'il y a des sports qui ont complètement disparu ?
Disparu, non, là pour le coup, nous, ça va plutôt être les mêmes sports existent, c'est-à-dire on parle du pentathlon, on parle de course, on parle de lancer de javelot, lancer de disque, on parle aussi de sport de combat. Les sports n'ont pas disparu, certains sont très proches, la course, mais on va se rendre compte que c'est la technique qui évolue. Comment on démarre une course, c'est très intéressant de venir le voir sur les photos en fait. Le départ d'une course chez les Romains ou aujourd'hui, bah, chacun essayait de comprendre comment on fait pour partir et propulser son corps le plus vite possible, sauf que bah, il n'y avait pas de starting block dans l'Antiquité. Bon, je spoil un peu, mais vous allez pouvoir découvrir comment on fait justement pour s'élancer, pour être le plus rapide. Et pour les sports de combat, parce que dans le pentathlon antique, on faisait de la lutte, et on n'a pas choisi de l'illustrer avec la lutte gréco-romaine d'aujourd'hui, qui finalement est très loin de la lutte des Romains, on a choisi d'illustrer avec deux judokas. Sur cette comparaison, en fait, sur ces sports de lutte qui sont des sports de préhension. Et donc, tout ça, c'est à découvrir dans cette exposition. Au-delà des photos, il y a des petits focus sur l'évolution des disciplines. Et aussi, c'est un moyen de découvrir, avec le portrait des athlètes antiques, plein d'anecdotes sur les Jeux olympiques dans l'Antiquité, revenir sur certaines idées reçues et en apprendre un petit peu plus aussi donc sur les JO de l'Antiquité.
Parce que c'est ça aussi la joie du travail archéologique, c'est qu'il réécrit l'histoire, ou en tout cas il corrige un petit peu l'histoire au fur et à mesure, et ça vient bah, jouer un peu sur nos représentations ou notre imaginaire de comment ça se passait, et c'est toujours un vrai plaisir de redécouvrir finalement des périodes qu'on pense connaître parfois, notamment l'époque romaine, on pense la connaître parce qu'on l'a travaillée à l'école pendant de nombreuses années, et finalement on vient redécouvrir des choses un peu plus précises.
Oui.
Et ça, c'est intéressant aussi.
C'est vrai. Et c'est l'archéologie, notamment. Hein. C'est grâce à cette science. C'est les découvertes archéologiques. Parfois, on se pose beaucoup de questions quand on découvre un objet, mais en creusant un petit peu, en fouillant sur les représentations de l'époque, les textes, faut comparer beaucoup de sources pour comprendre pourquoi, par exemple, on utilisait des poids dans l'Antiquité, dans chacune des mains, à quoi ça pouvait servir, pour quel sport. On pensait à des haltères. En fait, ces haltères, c'est ce qui servait aux athlètes qui faisaient du saut en longueur à se propulser vers l'avant, puisqu'ils ne prenaient pas d'élan. Mais ça, sur le moment, la découverte en elle-même de l'objet, elle peut être un peu déroutante. Et puis, en creusant un petit peu, on comprend mieux le sport. Et grâce aux reconstituteurs comme ACTA, bah, par l'expérience, par la reconstitution. Il reconstitue un disque de 6 kilos, il reconstitue ses haltères en pierre ou en bronze. Et puis en s'exerçant, petit à petit, il retrouve le geste. Et c'est comme ça qu'on peut réussir, voilà, à décrypter un petit peu les évolutions.
Je me demandais, là, ça fait 2 semaines, hein, c'est ça que l'exposition oui. est ouverte. Comment réagit le public, justement, en voyant les différences ou les similitudes dans les sports antiques et actuels?
Alors, pour l'instant, on n'a pas encore fait beaucoup de visites guidées, justement. Ça, c'est le programme de l'été. Mais quand on l'a délivré et montré au public pour la première fois il y a 15 jours, il y a justement la curiosité d'analyser la photographie. L'idée de cette exposition photo, c'est aussi juste pour l'émotion, parfois sans plus de décryptage. Mais quand on regarde bien, c'est intéressant de comparer la tenue vestimentaire, les accessoires, le geste. Donc, et puis, surtout, ces photos sont en très grand format. Donc, dans ce lieu très grand qui est la Palestre des Thermes, ces photos en grand format, elles procurent une émotion aussi. Elles viennent vraiment redonner une âme au site. Et c'est surtout ça, pour l'instant, qu'on voit. C'est la joie de rendre ce site un petit peu plus vivant.
Le site de Gézacoum est un espace naturel sensible. Est-ce qu'il y a des contraintes du coup par rapport à ça, quand il y a des animations, enfin quand vous faites des choses dans ce lieu?
Il y a des lieux effectivement pour préserver la nature et puis sauvegarder un petit peu les petites bêtes. Il y a des zones dans lesquelles on ne peut pas faire des animations tout au long de la saison. On attend notamment une fauche tardive. Là, en ce moment, vous voyez un petit peu partout, les foins se font dans le département. Nous, à Gézacoum, on fauche volontairement très tardivement, fin juillet, début août, pour pouvoir laisser les plantes grainées, les petites bêtes nichées. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas investir tous les lieux, mais ça c'est pour les espaces, les réserves archéologiques qui sont autour des thermes. Au sein même des thermes, on respecte la biodiversité, mais on est sur des prairies ou des gazons qu'on peut tondre, utiliser tout au long de la saison. C'est plus toutes les réserves archéologiques, tous les monuments enfouis autour qui sont des réserves pour l'avenir, où là on essaye d'avoir ce respect le plus long dans la saison de la faune et de la flore.
Et est-ce que les gens peuvent investir les thermes? On peut marcher dedans?
Ah, alors on n'a pas le droit de marcher dans les vestiges, Marie.
Marie s'est prise pour une romaine.
Hein. On a le droit de s'approcher au plus près pour les contempler. Il y a une moitié du bâtiment en fait qui est restituée avec les niveaux de sol, l'emplacement des bains, les murs sont restitués en élévation. Donc dans les thermes, il y a toute une moitié où on marche où on veut finalement. Et il y a une moitié de ce qu'on appelle le bloc thermal, c'est-à-dire la partie des thermes qu'on a laissée en vestige. Elle, on la surplombe un petit peu. Donc en fait, on en fait tout le tour. Ça permet de découvrir le système de chauffage en sous-sol, l'hypocauste, où étaient les bains, comment fonctionnait la technique du bâtiment. Mais là, il faut le regarder d'un petit peu loin, il faut l'observer de loin. Et puis la Palestre des Thermes, par contre, ce grand espace dédié au sport, c'est un endroit où aujourd'hui, vous pouvez venir avec vos enfants, jouer, courir. Toutes les pelouses à Gézacoum sont accessibles dans le jardin archéologique. Donc là, il ne faut pas hésiter à faire soi-même un petit peu de sport. On va donner des rendez-vous, on invite le public à venir le faire. Mais c'est vraiment un lieu où on a le droit de vivre, de s'exprimer. Donc si vous avez envie de venir
avec votre javelot,
courir à Gézacoum, bon, le javelot, je préfère que ce soit avec nous, quand on maîtrise un petit peu, le lancer, le... Mais voilà.
Cherche toujours à compliquer les choses, Marie, dont si. Ouvert tout l'été, Gézacoum, les promenades libres comme on l'entend, et puis les animations qu'on retrouve, j'imagine, sur le site du département, sur les temps forts plus spécifiques.
Oui, gézacoum-normandie.fr, ça c'est notre site internet. Sur lequel je vais très vite mettre toutes les animations de l'été. Mais ce que je peux vous dire là, dès maintenant, c'est que donc le site est ouvert du 1er juillet au 31 août, de 10h30 à 18h30. On peut venir se promener librement, gratuitement, pique-niquer ou faire son goûter dans le jardin. Le lieu est vraiment très propice pour ces petits moments de détente. Et on a, à partir de la semaine du 14 juillet, en fait, on va dire du 14 juillet jusqu'au 31 août, il y a 3 rendez-vous par semaine, une visite guidée chaque dimanche, un atelier, soit uniquement pour les enfants ou en famille, le mercredi. Et puis, la nouveauté de l'année liée à cette exposition, ça va être l'instant photo. Chaque vendredi après-midi, à 16h, rendez-vous dans la Palestre des Thermes auprès des photos et de l'expo photo. Et nos collègues médiateurs culturels attendent le public avec tous les outils et les instruments du sport antique, des haltères, des disques, des javelots. Donc là, ce sera autorisé. On peut tirer. Et en fait, on prendra en photo le public qui se mettra dans la peau des athlètes grecs et on leur laissera un petit souvenir. Du coup, on les prendra en photo, on leur explique tout sur le sport, on leur laisse prendre la pause et on immortalise tout ça en photo.
Merci Nathalie Gobert, responsable des animations sur le site de Gizakoum. Et puis on n'a plus qu'à retrouver toutes ces informations sur internet. Ça nous amène, Florence et Marie, au moment de l'agenda culturel, oui, sur le département.
Tout à fait, donc on va justement parler, je vais rebondir sur la prise de parole de Nathalie, puisque on organise un festival live à Gizakoum qui aura lieu le 14 septembre cette année, avec une programmation plutôt électro, mais plutôt variée, plutôt familiale, voilà, avec Maria Wallace, Cabochet, Lescope, et donc ça commencera à 16h avec une démo et des ateliers de breaker.
Moi, je vais être un peu plus proche, donc du 29 juillet au 2 août, il y a le musée mobile qui est toujours en vadrouille dans l'heure et qui sera à la Val de Reuil avec l'exposition Devenir hybride.
Et d'ailleurs, vous pouvez réécouter le podcast de l'émission du mois dernier où on parlait du MUMO.
Tout à fait, oui.
Ouais. Il y a aussi plein de festivals hein, cet été. Il y a le festival de la marionnette, notamment, du 10 juillet au 13 juillet sur l'Interco de Bernay. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Facebook de l'Interco de Bernay et sur le site Festival de la marionnette.
Pardon, je suis encore au MUMO. Musée mobile, Évreux. Cette fois-ci, ça sera la semaine d'avant du 16 au 22 juillet, donc sur la ville d'Évreux.
Il y a aussi, vous pouvez retrouver dans toutes les villes des programmations différentes, mais il y a Un été à Louviers qui a commencé déjà, qui durera jusqu'à fin août avec plein d'animations culturelles, sportives dans Louviers. C'est pareil, vous pouvez retrouver le programme sur le site de la ville.
À Harcourt, donc il y a pas mal de choses qui vont se faire tout cet été aussi. Le 13 juillet, il y a le bal à Harcourt, si vous voulez aller danser sous les arbres, c'est possible.
Vous avez aussi un autre festival de musique qui est le festival En Pagaille qui a lieu le 24 août, c'est la deuxième édition et c'est il y a un peu de tout, il y a du rock, du reggae, du hip-hop et ça a lieu dans les jardins qui sont au pied du château de Gaillon.
Donc pour rebondir sur les jardins, il y a tout le programme de La Nature dans l'Heure qui est sur le site internet www.lanaturedansl'heure.fr et il y a énormément de choses pour découvrir toutes les petites bêtes justement à Gizakoum ou à d'autres endroits dans tout le département.
Moi, je reste sur les festivals. Le dernier, ce sera le festival BD d'Évreux, organisé par l'association Varou, et ce sont les 24 et 25 août. Voilà, place du Général de Gaulle.
Et ben voilà, ça fait une belle programmation. Bien entendu, restez à l'affût de toutes les programmations qui peuvent émerger, soit associatives, soit sur le site du département de l'Eure. Le comptoir des loisirs propose également toute une programmation dans les alentours.
Et le site Eureka aussi.
Et le site Eureka également propose également tout ça. De quoi occuper votre été. Nous, on se retrouve en septembre maintenant. Hein, ça va être la trêve estivale. On se retrouve en septembre pour la chronique culture du département.
Au revoir, JC.
Et bon été. Merci.